fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik und Kultur-Sendung. Heute Abend bleiben wir immer noch in der Information über den Präsidentschaftswahl in Senegal. Was passiert genau in Togo, in die aktuelle Situation in Togo? Wir werden auch mit meinem Gast per Telefon diskutieren. Viel Spaß auf Kanal K. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Bonsoir Dakar, bonsoir Lomé, Bamako, Tripoli, Abidjan, Ouaga, amis fidèles auditeurs d'ici et d'ailleurs en Afrique, bonsoir et merci d'être en direct avec nous dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, ce soir, nous aborderons encore une fois les questions sur l'élection présidentielle au Sénégal. Le second tour est prévu donc dans 2 semaines. Nous aurons à cet effet en direct depuis Dakar, Madia Fall, journaliste au Sud quotidien à Dakar. Eh bien, Sékou Diabaté, qui est consultant, il va aussi commenter au téléphone également l'actualité politique sénégalaise avec nous depuis la France. Au Togo, le double rapport de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, crée toujours de vives tensions au sein de l'opposition et des organisations des défenses de droits de l'homme qui ont organisé une grande manifestation. Et bien sûr, c'était hier vendredi à Lomé. Nous en parlerons avec Augustin Améga, directeur du journal Canard Indépendant. Eh bien, l'équipe est toujours la même. Gisela Rossato, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Notre collaborateur Romain Koujodi est en ligne, en direct depuis et Bonn en Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Comment tu vas, Romain?
Je vais très bien.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, nous démarrons tout de suite avec l'éditorial de Romain Koujodi, puisqu'il est déjà en ligne. Romain, encore une fois, bonsoir.
Bonsoir. L'édito du jour. Abdoulaye par la petite porte. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, qui s'est déroulé le week-end passé, et on ne peut plus le dire assez clairement, une sentence pour Ouad. Un couperet venant ainsi sonner la fin de la présidence du désormais sortant président Abdoulaye. En effet, après avoir empêché certaines candidatures, interdit les manifestations de rue, empêchant ainsi la prise de la place basilique à son opposition, Ouad a péché par orgueil et par omission. C'est sans compter avec la détermination du peuple sénégalais qui a une longue histoire de parcours démocratique et de volonté inébranlable à faire et à défaire les politiques. S'il est vrai que Ouad a été porté au pouvoir par le Sopi, qui veut dire en Wolof le changement, eh bien, c'est également ce changement qui est en train de s'opérer en le forçant à partir et à le mettre en ballotage difficile face à son challenger, j'ai nommé Macky Sall. Mais de vous à nous, n'est-ce pas le chanteur Youssouf N'Dour qui a fait partie Ouad en mettant sur place au Sénégal le puissant quatrième pouvoir, à savoir la presse, la radio et sa télévision à la disposition de l'opposition contre Ouad? Macky Sall, de son côté, en est conscient et a rappelé la longue amitié qui le lie à Youssouf N'Dour, et s'est félicité de son choix irréversible de battre campagne avec ses mots, son mouvement, le soutien populaire dont il bénéficie pour aider à réaliser l'alternance démocratique pacifique au second tour. Le candidat de la coalition Macky 2012, le grand favori, a également estimé que les questions prioritaires proposées par Youssouf, alors qu'il espérait se présenter lui-même à la présidentielle, comme la baisse des prix des denrées de première nécessité, le soutien au monde rural, l'énergie, l'éducation ou encore la paix en Casamance figuraient au centre de ses préoccupations. Quant aux vrais perdants, ce sont les Moustapha Niass, les Adama Tenor Dieng, qui malheureusement doivent comprendre que l'âge et le temps jouent contre eux et devraient à la sagesse. S'il ne peut plus être présidentiable, car au Sénégal le septennat est de mise vu leur âge un peu plus avancé, qu'ils accompagnent au moins avec loyauté et dignité le changement qui est en train de s'opérer au Sénégal et l'histoire les récompensera pour service rendu au peuple. Quant au désormais sortant président, il est d'abord clair que Ouad a trop forcé son destin en voulant vaille que vaille imposer son fils Karim comme si le Sénégal était une monarchie ou une royauté. S'il gagne contre son ancien premier ministre, il aura vaincu sans gloire. S'il perd, il sort par les gouttières et pas par la grande avenue que Diouf s'était également offert en 2000, à moins qu'il n'accepte l'hôtel avant le scrutin. Or, il n'est pas Iphigénie. Ensuite, lui, le président triomphalement élu en 2000, ne sera pas le Mandela ouest-africain qu'il avait légitimé et avait l'opportunité d'être. Il a utilisé son pouvoir jusqu'à ce qu'il ait cessé d'être un pouvoir. Hélas pour une jeunesse qui a désespérément besoin de champions. Quant à nous, Africains, nous continuons désespérément de chercher l'héritier de Mandela, celui-là qui, au-delà des ambitions démesurées et ruineuses du continent, sera notre leader à jamais. Et vive le Sénégal pour que vive l'Afrique, le continent noir.
Vous écoutez là Youssouf Ndour, le grand chanteur sénégalais, celui-là même qui a vu sa candidature présidentielle récalée dans cette élection sénégalaise au Sénégal. Et bien sûr, au Sénégal, le président sortant Abdoulaye Wade et son challenger Macky Sall affluent leur âme pour le second tour du scrutin présidentiel. Le camp du président sortant accuse déjà la mission d'observation de l'Union européenne de son ingérence lors du premier tour de la présidentielle. Alors pour Macky Sall, l'union de l'opposition est impérative. Il a d'ailleurs enclenché la machine des ralliements et a eu gain de cause en obtenant des soutiens du mouvement M23 de Aléoutine, du mouvement Yanamar et de l'opposant Moustapha Niass de la coalition Bénin-Sigil-Sénégal. L'artiste Youssouf Ndour, que vous venez d'écouter tout à l'heure, et dont sa candidature a été récalée, se dit également prêt à financer avec ses propres moyens la campagne de Macky Sall pour le second tour du scrutin présidentiel. Rappelons aussi que l'Union européenne avait critiqué l'intervention des manifestations, notamment Dakar, pendant la campagne et s'est dit très préoccupé de la transparence dans la distribution et le retrait des cartes électorales. Alors, notre ami Madia Fall, journaliste au journal Sud Quotidien à Dakar, est en ligne et pour nous faire un compte rendu du déroulement du premier tour de l'élection présidentielle. Également, nous, si tout va bien, nous allons recevoir également en direct depuis la France Sékou Diabaté, et qui sera également en ligne depuis Paris pour commenter et analyser les enjeux de ce scrutin présidentiel au Sénégal. Mais tout de même, nous allons recevoir tout de suite Madia Fall, journaliste et du journal Sud Quotidien au Sénégal, à Dakar. Madia Fall, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Dakar au Sénégal. Et vous êtes journaliste au Sud Quotidien à Dakar. On a noté une forte participation lors du premier tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans le calme. Mais néanmoins, Madia Fall, on nous apprend que la campagne électorale a été violente au Sénégal. Alors, cela dit à quoi, Madia Fall?
Écoutez, la campagne électorale, effectivement, n'a pas été le tout repos. Parce que tout simplement, le camp s'affrontait, le camp composé de tous les gens qui avaient adhéré au mouvement du 23 juin, qui était contre la candidature du président, et puis, bon, l'autre camp qui était pour la candidature du président. De ces affrontements, évidemment, sont nés quelques dégâts, et parfois même en perte de vie humaine.
Oui, et Madia Fall, certains analystes soutiennent par ailleurs que les dissensions au sein de l'opposition, et notamment de la coalition Bénin-Sigil-Sénégal, qui n'a pas pu s'entendre sur une candidature unique de l'opposition, ont un peu plus déboussolé les électeurs. Est-ce que vous partagez également cet avis?
Absolument. Je crois que le camp de la social-démocratie qui est composé essentiellement le camp de Bénin-Sigil-Sénégal, ou du moins sa majorité, en a fait les frais au sortir des journées du premier tour de la présidentielle. Effectivement, même si c'est Moustapha Niass qui est en troisième position, il est loin derrière le cœur. Il est loin derrière les deux candidats libéraux que sont le président sortant, Abdoulaye Wade, avec ses 34,66%, et Macky Sall, son ex-premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien numéro 2 du PDS, et même directeur de campagne lors simplement de la présidentielle de 2007 du candidat Wade, et qui vient avec 26,6%. Donc Niass qui suit est à 13%, donc presque 13 autres points derrière. Et ça, je crois que c'est le président sénégalais a voulu sanctionner les dissensions, les divisions, le manque d'unité du camp de la social-démocratie.
Oui, et Macky Sall, l'opposant qui fera face à Wade pour le second tour, a reçu le soutien du mouvement M23 et celui du mouvement Yanamar. Et le grand chanteur sénégalais Youssouf Ndour apporte également son soutien à Macky Sall. Alors Wade a obtenu 35% des voix au premier tour. C'est quand même beaucoup. Est-ce à dire qu'au Sénégal, la population est vraiment divisée? Est-ce que ces soutiens et d'autres mouvements politiques suffiront-ils, selon vous, à renverser Wade au pouvoir?
C'est vrai. Ce qu'on peut observer, je pense fort pertinemment, c'est que, disons, 65% de la population a voté contre la candidature de Wade. Mais si 65% de la population a voté pour la candidature de Wade, 75% de cette même population n'a pas décidé quand même de donner, en tout cas au premier tour, sa confiance au suivant immédiat. Voilà la vérité des chiffres brutalement, de manière brute plutôt. Mais le problème, c'est que Wade semble avoir fait le plein de ses voix et que Macky Sall est quand même dans une rampe plutôt ascendante et surtout qu'il a reçu depuis lors le soutien de tout le monde. Et tout le monde s'est rangé parce que d'abord les gens ne pouvaient pas se dédire. Ils avaient dit qu'ils allaient se ranger derrière le candidat le mieux placé. Et en plus de ça, aujourd'hui tout le monde pense qu'il y a encore la possibilité d'une autre alternance. Et je pense que le peuple de manière générale, globalement, veut une nouvelle alternance.
Merci beaucoup de nous éclairer sur la situation politique au Sénégal et sur les élections et au Sénégal. Merci. Eh bien, nous allons retrouver tout de suite Sékou Diabaté qui est en ligne en direct depuis la France. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, Sékou Diabaté, vous êtes président de la coordination des associations des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes également coordinateur général du rassemblement de la diaspora africaine RDA. Vous êtes aussi président d'Initiative et Action citoyenne pour la démocratie et le développement RDA. Alors, vous venez de suivre en direct depuis Dakar l'intervention du journaliste Madio Fall, qui est en direct depuis Dakar. Alors tout d'abord, quel est votre commentaire?
En fait, j'ai pas très bien entendu, mais les éléments que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, bon, la situation est comme telle. Mais sauf que, bon, peut-être il y a des points sur lesquels il serait intéressant de revenir, quoi. Parce qu'en fait, Macky Sall, depuis sa sortie du gouvernement, quand il a été éjecté comme président de l'Assemblée nationale, sa première démarche a été faite vis-à-vis de Beno Sigel Sénégal à l'époque. Et il serait intéressant aussi de rappeler que toutes les réunions, à quelque niveau que ce soit de Benon, il y a eu des représentants de l'APR, c'est-à-dire le parti de M. Macky Sall, qui étaient représentés. Je prends pour preuve, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait demander à M. Aliou Tine. Et j'ai deux noms à donner, il y a Mahmoud Saleh. Il y a au moins M. Ngom aussi qui ont participé à ces réunions-là, quoi. Même si, effectivement, il est vrai que Macky lui-même, compte tenu de la stratégie de ce parti-là, a été beaucoup plus de terrain, mais la question de la représentation avait été assurée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, de toute façon, quelle que soit la situation, nous, ce qui nous inquiétait, c'était la violence. Nous, ce qui nous a inquiété, c'est que, malheureusement, pour des raisons d'intérêt personnel ou bien de parti, le Beno Sigel Sénégal a perdu beaucoup de temps pour trouver un ou des candidats qui auraient pu le représenter et réduire le gap, parce que c'est un mouvement qui est très fort à l'intérieur du pays, qui est représenté partout, du point de vue structurel, du point de vue des idées, mais qui malheureusement n'a pas pu trouver, réduire au maximum ses candidats. Et cela l'a pénalisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'eux, ils n'ont pas pu régler en 3-4 mois ou plus, le peuple l'a réglé en un jour et a fait que finalement, il y a aujourd'hui 2 candidats en face.
Alors,
maintenant, la question de fond qui se pose, c'est que une chose, c'est effectivement de glorifier ou de mettre les uns et les autres en première ligne. Mais ce qui compte, ce ne sera pas forcément des promesses du genre « Oui, je n'ai pas fait ça, je vais le faire quand je vais être réélu, si c'est le camp présidentiel d'aujourd'hui. » Ou « Ce n'est pas, je suis candidat, je vais faire cela. » Je pense que il faut qu'on fasse, dans les analyses, il faut qu'on fasse attention parce que la demande populaire est très grande. Parce que sur ces 10 ans et 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues, sans compter l'attente que ces populations avaient dans la résolution de ces problèmes qui n'avaient pas trouvé de solution du temps de Diouf.
Mmh. Sékouba Diabaté, vous faites partie de la diaspora sénégalaise en France, je viens de le rappeler, et bien ici en Suisse, et c'est la toute première élection sénégalaise sur le sol helvétique. Alors d'ailleurs, Ibrahima Guissé, de la délégation de la Commission électorale nationale autonome et de la Suisse des Sénats, s'est dit satisfait du déroulement du scrutin, et qui a été largement en faveur de l'opposition. Est-ce que c'est le même cas en France ?
Mais absolument. Déjà, il faut saluer cette initiative-là, parce que même si nous sommes de l'extérieur, mais nous sommes des citoyens à part entière. Donc, partout où les Sénégalais se trouvent, l'objectif aurait été, le souhait aurait été qu'ils puissent tous voter. Parce que les décisions que les différentes institutions du pays vont prendre, ils seront concernés. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, ça va dans le sens de reculer les choses de manière à ce que la démocratie puisse être une réalité. Donc, de ce point de vue, il faut saluer cette initiative-là. Mais bien évidemment, en France aussi, ça a été le cas. C'est-à-dire que le PDS et le FAL, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes des choses aujourd'hui, n'ont eu que 18%. Même si c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a une forte abstention. Mais on reconnaît quand même qu'il y a eu zéro violence. Et tout cela est encourageant. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'amener à ce que cette dynamique de non-violence puisse continuer d'un côté, mais en même temps que ce lot important de gens qui sont absolus, c'est-à-dire qu'ils viennent faire le devoir citoyen. Cela est extrêmement important pour la suite des choses. Mais dans tous les cas aussi, nous, on ne va pas se limiter à ce genre de choses-là aussi.
Justement.
Nous avons des problèmes. Nous avons de très sérieux problèmes
Sékouba,
à tous les niveaux.
Oui, Sékouba. Sékouba Diabaté, et malheureusement, nous sommes pourchassés par le temps. Alors, le camp Ouad critique et accuse l'Union européenne et pour son ingérence lors du premier scrutin présidentiel au Sénégal. Alors, rappelons également qu'en début de campagne, le président Abdoulaye Ouad affirmait que la France n'a pas de leçon de démocratie à donner au Sénégal. Alors, quelle analyse faites-vous, Sékouba Diabaté?
Une analyse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, sur le principe, en tant que pays souverain, il n'y a aucun pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre ou que ce soit, n'a pas d'ingérence à faire par rapport à l'évolution ou bien à la gestion de notre pays. Ça, c'est sûr. Mais en même temps aussi, comment en est-on arrivé à cette situation-là? On se rappelle, c'est-à-dire, il ne faut pas quand ça vous est défavorable ou quand on vous dit respectez les règles du jeu que vous avez aussi participé à définir, et qui a fait l'objet d'un consensus au point qu'on fonctionne comme ça, il ne faudrait pas, quand ça vous est défavorable, mais parler d'élection. Mais on a vu le président appeler M. Sarkozy pour qu'il présente, par exemple, son fils à Obama. Alors, c'est pour cela, évitons, quelle que soit la dureté de la situation, de rentrer dans une logique de victimisation, alors que la vraie question est ailleurs. Dans tous les cas, ce n'est pas la France ou les États-Unis ou qui que ce soit qui va faire qu'on va voter pour le président ou contre le président. Voter pour le président ou voter contre lui, ça va partir de son bilan, de ses 12 ans, de qu'est-ce qu'il a fait de bon, de qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bon. Et cette dynamique qui a créé les Yanama et les autres, je pense que l'enjeu c'est à ce niveau. Parce que l'extérieur ne peut absolument rien changer par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui.
Sékouba Diabaté, en tout cas, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous aurons largement le temps de parler encore une fois de cette élection au Sénégal, puisque dans deux semaines, il y aura le second tour des élections et de l'élection présidentielle au Sénégal. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.
C'est moi qui vous remercie.
TogoCity.com, Isilome.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, AfriqueInternews.com sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, nous allons faire actuellement un tour au Togo et malheureusement, Fabi Kouassi, notre correspondante, n'est pas actuellement à Lomé, mais notre collaborateur Augustin Améga est sur place et pour nous faire également le briefing sur l'actualité politique au Togo. Il est en ligne, en direct depuis Lomé. Nous l'accueillons tout de suite. Augustin Améga, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Oui, merci de nous accompagner en direct depuis Lomé au Togo. Vous êtes directeur du journal Le Canard Indépendant à Lomé au Togo. Alors, l'affaire du double rapport de la CNDH, Commission nationale de défense de droits de l'homme, défraie toujours la chronique au Togo. Et des tensions montent un peu partout au sein de l'opposition et également au sein des organisations de défense des droits de l'homme, hein, et qui d'ailleurs ont organisé hier vendredi à Lomé une grande manifestation. Alors, Augustin Améga, parlez-nous un peu de cette manifestation des ODDH. Est-ce qu'elle a été massivement suivie par la population, Augustin Améga?
Oui, comme vous pouvez bien s'y attendre, parce que il y a eu toute une consternation au sein de l'opinion à la publication des deux rapports attribués à la Commission nationale suite à la demande du gouvernement d'investiguer sur les allégations de torture. Et donc, bien évidemment, la clarification a été faite et on sait qu'il y a un rapport qui a été falsifié. Donc, les organisations des droits de l'homme ont créé une synergie. Composé d'une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme, dont SOS Journalistes également, pour manifester et demander la démission du gouvernement qui a publié sur son site un rapport travesti. Et cette manifestation-là a eu également la participation de beaucoup de partis d'opposition et elle a été massivement suivie. Elle a connu une grande mobilisation qui rappelle d'ailleurs la grande mobilisation qu'on a connue dans les années 90, autour des principaux partis de l'opposition. La manifestation qui a débuté au rond-point du Château Bert a échoué à la place Décon, où les manifestations ont fait un sit-in là, en pleine rue, paralysant pendant des heures la circulation au niveau de Décon.
Oui, Augustin Améga, et on nous apprend également la participation de plusieurs hommes politiques, comme vous venez de le dire, et comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC, et Claude Amengavi du Parti des Travailleurs, Jean Kissi du CAR, et Brigitte Adjamagbo Johnson de la CDPA, et même l'ancien Premier ministre Agbemé Kodjo de l'OBU. Et il se susurre également au Togo et d'une probable union de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez, Augustin Améga?
Oui, j'ai été avec également Antoine Folie de l'IFDS Togo, qu'on n'a plus vu lors des manifestations pendant des années, qui a également participé à cette manifestation. Oui, il y a des tractations pour créer une union de l'opposition, mais c'est assez difficile pour le moment de nous exprimer sur une réelle perspective de voir l'opposition progresser, s'unir, parce que certaines formations de l'opposition pose le problème en termes de leur survie. Par exemple, que les sièges, les circonscriptions électorales soient partagées entre les formations qui vont participer à cette coalition-là avant que cette union-là ne puisse se réaliser. Ce qui, évidemment, pose un énorme problème au niveau du FAC, où autour de l'ANC, déjà, il y a pas mal de partis politiques comme le PSR et l'ADI, qui, depuis deux années, sont ensemble, qui manifestent en réclamant la victoire de Jean-Pierre Fabre à l'élection de mars 2010, mais qui, également, chaque semaine, dénoncent les violations des droits de l'homme, le problème de la vie chère, en tout cas, qui réagissent chaque semaine sur l'actualité politique et les difficultés sociales que les Togolais connaissent. Donc, on doit dire que c'est assez, comme d'habitude d'ailleurs, l'union de l'opposition togolaise, l'union de l'opposition au Togo est devenue un serpent de mer. On l'annonce très souvent, mais elle ne se réalise pas. Ce qu'on craint, c'est que certains conditionnent leur participation à cette union-là, qui devrait se pour obtenir des élections transparentes. Ce qu'on craint, c'est que certains ne conditionne leur participation à cette union-là, à la division, comme je l'ai dit tantôt, la circonscription électorale et que ce préalable-là ne permette finalement d'aboutir à la réalisation de l'union de l'opposition.
Oui, et Augustin Méguin, nous allons parler maintenant des législatives au Togo. Alors, l'Union européenne s'est engagée de nouveau à superviser ces élections législatives prévues dans quelques mois au Togo. Mais beaucoup de Togolais se disent inquiets sur le rôle ambigu de l'Union européenne dans l'organisation des élections au Togo. Quelle est votre lecture de la situation, Augustin Méguin?
Non, l'Union européenne ne s'est pas encore engagée pour organiser les élections au Togo. Et je pense que l'organisation d'élections transparentes au Togo revient d'abord avant tout au Togo. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait, ou alors je crois qu'on passe à côté en croyant que c'est l'Union européenne qui devrait faire en sorte qu'on puisse avoir des élections transparentes au Togo. Je crois que l'un des préalables, c'est justement la création d'une synergie qui puisse lutter et faire pression pour que le gouvernement concède les réformes qui doivent aboutir à la tenue d'élections transparentes. C'est vrai, l'Union européenne a envoyé à Lomé une mission qui est venue évaluer la faisabilité des élections législatives qui devraient être organisées au Togo à terme constitutionnel entre septembre et octobre 2012. Donc, la mission a également évalué le niveau de mise en œuvre des recommandations de différentes missions envoyées par l'Union européenne au Togo, notamment à l'occasion des législatives de 2007 et de la présidentielle de 2010. Et à ce niveau-là, il faut quand même remarquer que le gouvernement n'a pas du tout mis en œuvre les réformes préconisées par l'Union européenne qui devraient permettre, entre autres, la tenue d'élections législatives équitables au Togo en procédant à un nouveau redécoupage. Donc, tous ces problèmes-là restent entiers. Ces réformes-là n'ont pas été effectuées. Et l'Union européenne dit que si ces réformes-là ne sont pas effectuées et qu'elle n'a pas certitude que les élections peuvent se tenir dans la transparence au Togo, elle ne participera pas, elle ne financera d'abord pas ces élections-là et elle ne participera pas à l'observation de ces élections. On en est là pour le moment et on a constaté que le pouvoir a initié maintenant un dialogue entre les partis parlementaires à vue des réformes à mettre en œuvre pour qu'on ait un cadre électoral permettant des élections transparentes.
Augustin Amégard, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle que vous êtes le directeur du journal Le Canard Indépendant.
Écoutez tous les dimanches de 14 à 15 heures Fenêtre sur l'Afrique sur Fréquence Banane, une radio installée à Lausanne. Fréquence Banane 94.55 MHz, la diversité culturelle et politique au cœur de l'information.
Eh bien, au Togo, la question de torture suscite encore toujours des vives réactions. Également, le double rapport de la CNDH et nos politiques et les sociétés civiles ont réagi. Également, sur le plan international, il y avait également des réactions. Tout à l'heure, mon invité Mathieu Tchikhovski est en ligne. Nous allons le recevoir, j'espère qu'il est en ligne. Bonsoir à Mathieu. Alors, Mathieu Tchikhovski, je rappelle que vous connaissez bien le Togo, eh bien, vous venez quand même de le montrer par une langue que nous parlons bien, au Togo Lomina ou Lévé. Alors, merci d'être en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes membre fondateur du parti politique français NPA. Et vous êtes également, c'est un parti révolutionnaire, hein. Vous êtes également président de l'Organisation des Peuples Observateurs et membre de la Résistance Togolaise. Merci d'être en direct avec nous. Et je le disais tantôt, c'est dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, Mathieu, dans quelques jours, un scandale, je dis pas dans quelques jours, c'est depuis quelques jours plutôt, hein. Il y a un scandale politique qui est lié à un double rapport de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, qui défraient la chronique. Hein. Alors, le rapport de la CNDH évoquait des tortures inhumaines au Togo. Et quelle lecture faites-vous de la situation, Mathieu Tchikhovski?
Oui, alors merci Sylvain. Avant de vous répondre, j'aimerais saluer chaleureusement les Togolais qui sont au pays et qui luttent vaillamment, voilà, et aussi un big up appuyé à la diaspora togolaise ainsi qu'à la diaspora africaine. Et je fais un appel pour qu'ils rejoignent dès maintenant en force et en nombre le mouvement de révolution qui se passe justement au Togo. Alors voilà, pour vous répondre, donc oui, la torture au Togo n'est pas une nouvelle. Tout le monde sait ce que le régime despotique père et fils fait dans ce pays depuis bientôt 50 ans, avec la bénédiction des Occidentaux, surtout les Français et les Américains. Bon, le vrai faux rapport est un énième épisode de règlement de compte, ainsi qu'un délitement avancé du régime de fraude Nyasimbe, putschiste de 2005, et assassin de milliers de compatriotes exilés, violés, blessés, encore à ce jour, avec l'aide du Français repris de justice Charles Debache, qui peut s'asseoir à chaque grande festivité de la dictature aux côtés de l'ambassadeur de France alors qu'il a été condamné dans son propre pays. Le peuple a des yeux. Où se trouve la dépouille de Bruce, hein? Qui a assassiné l'ancien ministre Agbobli, si ce n'est Massina et ses sbires de l'ANR? Il faut le dire. Dans l'affaire du faux rapport de la CNDH sur les tortures, nous demandons que le premier ministre Humbo, le ministre de la justice Chalim Chichao, soit entendu par la justice, ainsi que le ministre Hamadou Yakubu, ancien président d'une association de défense des droits humains. Hein, honte, honte à ce vendu. Aussi doivent être entendus par la justice le chef d'état-major Atiatitikpina, le faux colon Massina, hein, le repris de justice aussi, donc comment dirais-je, Charles Debache. L'impunité doit cesser une bonne fois pour toutes dans ce pays. Mmh. Comment est-ce encore possible aujourd'hui que le collaborateur direct de fraude Nyasimbe, de qui dépend l'ANR, donc j'ai nommé Yetrofei Massina, puisse pointer son arme sur le président de la CNDH. Hein? Je
peux vous Mathieu, confirmer. Oui. Mathieu, il s'appelle Fraude Nyasimbe, non, et donc Fraude Nyasimbe quand même.
Moi, je l'appelle Fraude, c'est un fraudeur.
Alors, justement, Mathieu Tchikowski, parlant de tortue inhumaine au Togo, et vous venez de publier un document impliquant l'armée française de torture au Togo. Accusation quand même assez grave. Hein? Avez-vous des éléments de votre accusation, Mathieu Tchikowski?
Bah écoutez, la France, depuis qu'elle a envahi le continent mer, s'est appuyée sur la violence pour asseoir son joug sur les populations violées. L'État français, depuis des décennies, est complice du régime dictatorial et mafieux, donc du régime Nyasimbe. Pour l'exemple, le Togo bénéficie d'une importante aide militaire en vertu d'un nouvel accord de défense signé il y a à peine quelques semaines par Sarkozy et Nyasimbe. Bon, l'aide militaire française a permis, grâce à sa fourniture en équipement militaire et l'entraînement des soldats togolais, à réprimer la population, notamment pendant les massacres de 2005 et les élections de 2010 avec les gaz lacrymogènes et les instructeurs CRS. Donc Compagnie républicaine de sécurité. Il faut rappeler, en 2005, à la mort du dictateur Étienne Nyasimbe, et pendant la sanglante répression qui suivit les élections, la France envoya un avion de la flotte présidentielle avec à son bord des membres de la DGSE afin de récupérer tous les documents compromettants de l'implication de la France dans ces ignominies en faire le peuple du Togo. Par ailleurs, le Togo et la France conduisent régulièrement des manœuvres militaires conjointement sur le sol togolais. Ainsi, la France permet à la dictature de Nyasimbe d'avoir des connaissances précieuses géomilitaires détaillées de tout le territoire. Donc, des officiers français aussi occupent des postes de responsabilité au sein de l'armée togolaise et ils gèrent pratiquement l'intendance militaire au Togo, comme depuis peu en Côte d'Ivoire, sous le joug du boucher Ouattara. Donc, un exemple, voilà, très révélateur des pratiques...
Mathieu Tchikowski, vous êtes quand même percutant, hein. Et la France-Afrique, vous en avez également parlé dans votre publication, et ce système et qui paralyse toujours le développement de la plupart des pays africains, surtout francophones, hein. Alors, on fait croire, et dans le milieu politique français, et que la France-Afrique est en train de mourir. Est-ce que vous confirmez cela, Mathieu?
Bah écoutez, au Togo, on retrouve ce système d'intérêts croisés privés, mais aussi publics, car dans la relation incestueuse franco-togolaise, l'État français tient le premier rôle dans la répartition des marchés et des biens du Togo façon mafia, que l'on appelle donc la France-Afrique. Ensemble, ils concourent à préserver leurs intérêts à caractère privé en constituant des lobbies si puissants qu'ils influent justement sur l'État. Donc la France-Afrique est toujours d'actualité sous Sarkozy. Seulement, les techniques de pillage sont plus sophistiquées. Quoique, que faisait Sassou Nguesso il y a quelque temps en France? Ouattara, qui chaque deux semaines se trouve en France. L'ère des mallettes n'a sûrement pas disparu, surtout en période actuelle électorale en France. L'oligarchie minoritaire mondiale se soutient de plus en plus parce qu'elle est fissurée par les coups de boutoir justement des peuples qui se battent un peu partout pour leur liberté sur la planète. Donc la France est assimilée à la plèbe togolaise et bientôt elle devra prendre des décisions courageuses car le français, l'européen moyen devient très informé des tenants et aboutissants en Afrique. Un exemple criant dernièrement de la France-Afrique, c'est l'accord signé entre Bolloré et la dictature togolaise pour la construction du troisième quai au port de Lomé. Sans aucun appel d'offres. Et le chantier de construction donne directement à un autre groupe français qui est Vinci. Bon, voilà, no comment.
Voilà. Et Mathieu Tsikossi, merci pour ces informations quand même très percutantes. Hein. Je rappelle tout de même à nos auditeurs que vous connaissez bien le Togo et sa politique. Hein. Et alors, les élections législatives qui sont prévues dans quelques mois au Togo, on nous apprend également la supervision et l'implication de l'Union européenne pour une transparence de ces élections. Alors Mathieu Tsikossi, hein, croyez-vous vraiment que l'Union européenne arriverait à jouer un rôle d'impartialité dans l'organisation de ces élections, Mathieu?
Bah écoutez, en effet, je connais le Togo parce que je suis devenu togolais. Je me déplace régulièrement au Parlement européen de Strasbourg et à Bruxelles pour faire du lobbying auprès des élus européens. Et je leur tiens toujours le même discours que tôt ou tard, les peuples africains vont se révolter. Leur diaspora l'est déjà, elle est régulièrement sous leurs fenêtres. Et que s'ils continuent cette même politique de couverture des régimes despotiques africains, alors ne vous étonnez pas si un jour vos soi-disant observateurs d'élections soient chassés. Le scandale Louis Michel, l'ami personnel du dictateur togolais, qui est accusé de vol de plus de 300 millions d'euros d'un fonds européen au Congo-Kinshasa, n'est que l'illustration de cette complicité, de cette oligarchie délinquante. Si l'Union européenne s'apprête à refaire le même cinéma qu'aux dernières élections présidentielles de 2010 avec la coupure du VSAT par exemple, ce n'est même pas la peine de venir au Togo car elle sera mal reçue par les populations. Voilà, elle est prévenue. Hein. Nous pouvons tout de même constater que dernièrement, elle s'est abstenue dans l'affaire des tortures de se prononcer et que la commission technique est repartie à Bruxelles muette. Alors, cela peut présager un tour de vis sur la junte togolaise. Attendons de voir. Mais moi, je vais être bref, hein. Il est fort probable qu'il n'y ait pas d'élection législative cette année. Voilà. Moi, je dis qu'après la prise du pouvoir par le peuple, l'Assemblée nationale herpiteuse sera dissoute et une refondation de l'institution sera mise en chantier.
En tout cas,
nous pensons que pendant un temps, il faudra gouverner par décret pour renforcer
En tout cas, Mathieu, ça c'est votre opinion. Une dernière question rapidement, Mathieu, puisque le temps est malheureusement contre nous. Alors, et pour conclure cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique, alors, quelle est votre impression sur la politique de ce pays que vous connaissez bien, où la démocratie bat toujours du plomb dans les ailes, Mathieu Tsikossi?
Mais écoutez, le dictateur Nyasimbe, c'est qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien à proposer au peuple, qu'il a joué toutes ses cartes et qu'il est nu comme un ver. Il n'a pas réussi à laver le nom de sa famille vomi par le peuple togolais et que le fait qu'il ait acheté la trahison de Gilles Chris Olympio afin de dynamiter le symbole de la lutte qu'est l'Ablodé, eh bien les aïeux et la mat ont préservé ce trésor de l'espérance populaire qu'est Ablodé, la quête de la liberté. Depuis les élections présidentielles de mars 2010, où le dictateur a confisqué de nouveau le pouvoir, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de lutte, tout azimut, et aussi dans ses dimensions. En effet, rappelez-vous, alors que les résultats falsifiés des élections n'étaient pas encore annoncés, tout comme dernièrement avec le charcutage du rapport de la CNDH sur les tortures à l'ANR, j'ai battu le rappel de la diaspora togolaise à la mobilisation en entamant une grève de la faim le 12 mars 2010. Ensuite, il y a eu la constitution du FRAC avec les différentes actions multimodales publiques et secrètes. Sans relâche, comme un rouleau compresseur, nous avançons sur le cadavre du régime Nyasimbe. Nous pouvons dire tout haut que les résultats sont là. Qui aurait parié sur l'incarcération d'une bonne partie de la famille Nyasimbe? Qui aurait parié sur le fait qu'une partie des FAT défile les samedis avec le peuple? Qui aurait parié que Kara, jusqu'au village même de la famille Nyasimbe, hein, Pia, le peuple se révolta? Qui aurait parié que la police nationale, que l'armée veulent manifester ou faire des mutineries? Aujourd'hui, la famille Nyasimbe est divisée. L'armée est très divisée. Et donc, moi, je fais un vibrant appel aux Togolais, aux Africains et amis de l'Afrique de soutenir de manière active active le peuple en lutte au Togo, car c'est bien sur ce territoire que l'Afrique retrouvera sa liberté et son indépendance. Mmh. Donc nous avons besoin de toutes les énergies qui concourent justement dans ce sens. Donc je fais un appel pour envoyer de l'argent au FRAC sur l'adresse internet www.anctogo.com ou contacter les parties du FRAC ainsi que sur Facebook le groupe For Must Go en anglais, For Must Go, ou bien encore moi-même. Voilà, le dénouement est proche et ce n'est pas un effet d'annonce. Moi, je vous garantis. Ablodek Bibo. Ablodek Bibo, je vous remercie, Sylvain Amos.
Merci, Mathieu Tikroski. Je pense que j'ai bien prononcé le nom qui est quand même difficile.
Vous êtes merveilleux.
Merci, Mathieu. Et nous aurons l'occasion de vous inviter encore une fois pour parler de la politique togolaise africaine. Merci et bonsoir chez vous. Eh bien, l'émission continue. Cette fois-ci, nous allons prendre dans quelques secondes notre invité que j'avais oublié ou omis de vous l'annoncer en début d'émission. Il est au studio. Nous allons parler dans quelques instants de l'immobilier au Togo. Bien, parlons maintenant d'immobilier au Togo avec mon invité Anoumou Adoté qui est au studio de Radio Kanaka. Anoumou Adoté Théodore, bonsoir. Merci d'être au studio de Radio Canal K. Approchez-vous un petit peu du micro puisque vous allez passer un message vraiment important, pour la diaspora togolaise. Alors, Anoumou Adoté Théodore, vous êtes le président de l'Assemblée des associés Swiss Finance International SFI. Et j'espère que les auditeurs ont déjà écouté le spot publicitaire que nous avons lancé avant de vous recevoir tout de suite là. Alors, ce projet est en pleine promotion immobilière au Togo, en partenariat avec la BTD, Banque Togolaise de Développement. Dites-nous brièvement, à nous, à Théodore, ce qui vous a motivé à élaborer ce projet.
Merci beaucoup, Sylvain. Je voudrais te remercier très sincèrement pour cette invitation. Je suis très honoré. Pour revenir à la question, je voudrais tout simplement dire que l'immobilier au Togo est un secteur très difficile. Nous connaissons tous, en tout cas du moins les Togolais, qui ont fait la même expérience de vouloir acquérir leur immobilier, ont malheureusement très souvent été confrontés à des difficultés majeures et que moi je classe en trois catégories. Donc la première catégorie c'est l'escroquerie, n'est-ce pas? C'est souvent lorsque une parcelle est vendue à plusieurs personnes à la fois. Et c'est aussi lorsqu'une parcelle est vendue par un faux mandataire ou par un faux héritier. Donc tout cela engendre des problèmes juridiques très importants que connaissent forcément les Togolais.
Bien sûr, oui.
Donc la deuxième catégorie, moi je dirais, qui concerne beaucoup plus les Togolais de la diaspora, c'est l'abus de confiance. Parce que nous vivons tous à l'étranger, nous travaillons très dur et puis on met de l'argent de côté pour envoyer à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, pour nous construire une petite maison, une villa. Et puis malheureusement, très souvent, ni la parcelle, ni la maison, rien de tout ça n'est jamais réalisé. Donc c'est la deuxième catégorie des difficultés que rencontrent les Togolais donc sur le chemin d'acquisition de leur patrimoine immobilier. Donc la troisième catégorie qui n'est pas des moindres, mais qu'on oublie souvent de citer, c'est ce que moi j'appelle la non-intégration des plans urbanistiques de ces parcelles, parce que enfin on se rend compte des années plus tard qu'une maison qui a été construite sur une parcelle vendue comme étant une parcelle intégrée à un plan accepté par les services compétents urbanistes, et ben c'est la maison qui se retrouve au milieu de la rue. Donc il n'y a pas de coordination dans tout ça, raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette société pour essayer d'amorcer un début d'institutionnalisation, de ce secteur qui est très important culturellement pour tous les Togolais, mais qui malheureusement reste anarchique et totalement informé. Mmh. Voilà un peu quelques raisons que je peux citer par rapport à cela.
Oui, et Monsieur Anoumou Théodore, depuis quelques temps au Togo, hein, vous venez vous-même d'évoquer le problème, hein, depuis quelques temps au Togo, et plus précisément à Lomé, certains Togolais de la diaspora, tout comme ceux vivant au Togo, ont vu confisquer leur maison, soit à cause de double vente, ou encore d'autres formes d'escroquerie, des propriétaires de terrain qui sont souvent en complicité, bien évidemment avec des huissiers de justice, hein, et qui constituent un grand réseau. Et ça, il faut qu'on le dise. Alors, une femme avait même piqué une crise, hein, et est morte dans cette affaire. Alors, expliquez-nous un petit peu le côté juridique de votre projet.
Merci. Alors, c'est très important pour nous parce que il faudrait que tout le monde soit rassuré pour ce que nous faisons. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour former une équipe qui soit pluridisciplinaire. Il y a dans cette équipe de la SFI des juristes, des économistes. Nous avons associé une banque officielle togolaise à ce projet par souci de transparence pour que les gens sachent ce qui se passe, ce à quoi nous voulons les amener. Effectivement, vous venez de le dire, malheureusement, c'est des drames humains qui sont derrière les difficultés que rencontrent les Togolais. Donc, sur leur envie d'avoir de leur maison et leur immobilier. Bref, nous avons pris des dispositions très importantes. Pour nous, il n'est pas normal de construire une maison sur une parcelle qui n'a pas de titre foncier. Il faudrait que les gens le sachent, que le titre foncier, c'est le seul papier qui atteste qu'on est propriétaire d'une maison, d'une parcelle. Si on n'a pas le titre foncier de sa maison, de sa parcelle, on peut se voir attaquer des années plus tard en justice pour la propriété concernant cette parcelle ou cette maison. Donc, pour nous, société SFI, c'est un préalable très important qu'il faudrait expliquer, bien entendu. Les lois sur place au Togo également disent la même chose, mais seulement les gens ne se donnent pas le temps de comprendre ce que disent les lois pour pouvoir les mettre en application. Donc pour nous, ce côté est très important. Nous voulons donc travailler en toute transparence, juridiquement parlant, bien sûr.
Anoumou Adoté, nous sommes toujours avec vous encore pour quelques 8 minutes pour parler de l'immobilier au Togo. Alors, admettons que moi, Sylvain Amos, je vis en Suisse et que je voudrais acheter ou réserver une parcelle de terrain chez SFI, hein, à Dalavé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai une garantie, et vu tout ce qui se passe actuellement au Togo et concernant l'acquisition de terrain?
Exactement. D'abord, tout ce que vous avez à faire, vous allez sur le site. Nous avons un site internet www.sfitogo.com. SFI Togo en un seul mot, bien sûr. Vous allez sur le site, vous allez sur la rubrique souscription. Il y a un formulaire qui sort. Vous le remplissez et puis vous l'envoyez. 2-3 jours après, vous avez une réponse, une confirmation. Donc ça, c'est la procédure de souscription que nous avons mise mise en place et qui est visible partout dans le monde entier. Hein. Mais pour les Togolais qui sont sur place, bien sûr, ils visitent le site. Il y a des numéros de téléphone. Il y a une équipe sur place qui peut leur dire ce qu'il faut faire. Bon, alors vous parlez de garantie. Alors moi, je voudrais quand même rassurer les auditeurs, les Togolais qui nous écoutent du monde entier, que nous avons pris les engagements nécessaires avec la BTD. C'est-à-dire que vous suivez la procédure, et puis après la confirmation donc de votre souscription que je viens de décrire sur Internet, si vous avez une parcelle qui vous est réservée avec un numéro, alors vous pouvez ne pas, on ne vous appelle pas à payer, c'est-à-dire que vous irez tout simplement auprès de la BTD pour déposer un premier tiers et vous recevrez la confirmation par la suite. Vous suivez la procédure. Mmh. Donc, tout est expliqué sur le site. Mmh. Je crois que tout un chacun pourrait éventuellement s'informer sur le site.
C'est le
très 3, simplement.
3 fois WSFI point et SSFI.
C'est le 3W.SFITogo.com.
Exactement. Alors, une dernière question à Noumou Théodore. Alors, reconnaissez-vous quand même que vous êtes relativement un peu cher par rapport au prix de vente normal au Togo?
Pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Parce que actuellement, nous proposons un demi-lot, ce que les gens appellent demi-lot, ce que nous appelons 300 mètres carrés. Nous proposons, 3 900 000 francs. Pour être plus précis, c'est un mètre carré pour 12 000 francs. Donc, il y a l'électricité, il y a l'eau. Nous finançons tout ça nous-mêmes. Hein, les routes sont tracées, dressées par la SFI, notre groupe. Donc, c'est un concept qui est nouveau, mais qui est très bon. Bon, un demi-lot, 300 mètres carrés à Lomé, avec les mêmes modalités urbaines que je viens de citer, ça va chercher dans le double au
bien
moins.
Bien sûr, avec l'acquisition du titre foncier également.
Ah, exactement. Donc, ça fait toute la différence. Mm-hmm. Et c'est une grande première au Togo, ça n'a jamais existé alors. Donc, j'appelle tous les Togolais à souscrire massivement à nos produits, à nous soutenir, pour qu'ensemble nous puissions
et à éviter les escroqueries aussi.
Exactement. Mm-hmm. Pour qu'ensemble nous puissions bâtir Lomé de demain. Mm-hmm. Elle sera la ville que nous voulons qu'elle soit. Donc, ensemble, dans ce challenge-là. Je vous remercie beaucoup.
Anoumou Adoté Théodore, merci d'avoir été des nôtres au studio de Radio Canal K dans cette émission Fenêtre.
C'est moi qui te remercie. Merci.
diaspora.org mo5-togo.com africainternews.com sont nos sites d'information panafricaine partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Réécoutez tous les dimanches de 14 à 15 heures Fenêtre sur l'Afrique sur Fréquence Banane, une radio installée à Lausanne. Fréquence Banane 94.55 MHz, la diversité culturelle et politique au cœur de l'information. Oh,
Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci pour votre fidélité. J'espère que nous allons nous retrouver, bien évidemment, en bonne santé samedi prochain à 20h, ici même au studio Radio Kanka. Nous allons toujours continuer à suivre de près l'élection présidentielle, et le deuxième tour de l'élection présidentielle au Sénégal, qui interpelle effectivement et tous les Africains de la sous-région de l'Ouest africaine. C'est une élection à haut risque, mais nous allons croiser les doigts car l'Afrique a besoin d'une unité possible pour reconstruire cette Afrique. Alors l'équipe Romain Koudodi depuis Bono, Gisela Rosato, et Josué Maoli, Esteban Gagnon, Fabi Kouassi a collaboré avec nous malheureusement. Elle est occupée, elle a voyagé un petit peu, mais samedi prochain, vous allez écouter la voix de Fabi Kouassi pour le briefing de l'actualité au Togo. Alors nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous.